Épître aux Hébreux, chapitre 7. Car c'est ce Melchisédec, roi de Salem, et sacrificateur du Dieu souverain, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit. À qui aussi Abraham donna la dîme de tout le butin. D'abord, Melchisédec signifie roi de justice. De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il a été sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Or, considérez combien est grand celui à qui Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Et tandis que ceux d'entre les fils de Lévi qui exercent la sacrificature ont l'ordre selon la loi de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, lui, qui n'était pas de la même famille qu'eux, il leva la dîme sur Abraham, et bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici ce sont des hommes mortels qui prélèvent les dîmes, mais là, il est attesté que celui qui les reçoit est vivant. Et Lévi qui prélève les dîmes les a aussi payés, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédec alla au-devant de lui. Si donc la perfection s'était trouvée dans le sacerdoce lévitique, car c'est à celui-ci que se rapporte la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il s'élevât un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédec, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a servi à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur est issu de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Et cela devient encore plus manifeste quand il s'élève un autre sacrificateur selon la ressemblance de Melchisédec, qui a été institué non selon la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car il rend ce témoignage. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédec. Ainsi, la première ordonnance a été abolie à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu, a été mise à sa place. Et comme Jésus n'a pas été institué sans serment, car les autres ont été faits sacrificateurs sans serment, mais celui-ci l'a été avec serment, par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, il ne se repentira point, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédec. » Jésus est ainsi devenu garant d'une alliance d'autant plus excellente. Puis, quant aux sacrificateurs, il y en a eu un grand nombre, parce que la mort les empêchait de subsister toujours. Mais lui, parce qu'il subsiste pour l'éternité, il possède un sacerdoce qui ne passe point. C'est pourquoi aussi, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Or, il nous fallait un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'eut pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois en s'offrant lui-même. Car la loi institue souverains sacrificateurs des hommes soumis à l'infirmité, mais la parole du serment, qui a suivi la loi, institue le Fils, qui a été rendu parfait pour l'éternité.